Bonsoir. La CEI a reporté pour le 18 décembre le référendum populaire. Il était précédemment fixé pour le 27 novembre prochain. Les enseignants ont suspendu leur grève. Ils disent donner au gouvernement un délai de grâce de 3 mois pour répondre à leur attente. Oumba Longangé, président provincial ad intérim, Juvenal Kitungwa, chargé de la jeunesse de l'UNAFEC, ne devront plus passer sur les chaînes nationales pour une durée de 3 mois. L'Union nationale de la presse du Congo a pris cette mesure hier suite aux propos incitant à la haine que ces deux représentants de l'UNATEC ont tenus sur la chaîne Inter Bien et Voix. Une enquête est ouverte pour établir les responsabilités de cette chaîne chrétienne. Vendredi, Tribune de la presse reçoit Benoît Cambéré, journaliste à la revue Renaître, Eric Kadjamba, journaliste à la radio Maria à Bukavu, Félix Kabouzi, directeur du journal La Référence Plus à Kinshasa. Tribune de la presse, report du référendum pour le 18 décembre prochain. Le calendrier précis et détaillé avait pourtant fixé pour le 27 novembre prochain le début du scrutin référendaire. Pour la CEI, les contraintes budgétaires et le retard pris dans l'opération de recensement sont les explications nécessaires. Mais quelle incidence ces reports peuvent-ils avoir sur le respect du calendrier global donné le 15 mai dernier au Parlement? Première question que nous posons à Félix Kabouzi, je rappelle, Félix est directeur de journal Référence Plus.
Bon, écoutez, l'impact de ce retard va être assez lourd, hein, parce que, d'une part, c'était une date prévisionnelle, et ça veut dire que la CEI l'a juste proposé, mais il reste que cette date soit, à mon avis, acceptée aussi par toutes les composantes et éventuellement soutenue par le gouvernement. Donc ça, c'est pour la deuxième fois que la CEI fait ce genre de report. Évidemment, les raisons que la CEI avance sont tout à fait fondées. Vous savez qu'au départ, le recensement et l'enrôlement étaient prévus pour 3 mois. Et aujourd'hui, nous en sommes pratiquement au 4e mois, puisque c'était prévu du 25 juin au 25 septembre, au 15 octobre aujourd'hui. Donc nous aurons pratiquement fait plus d'un mois et le recensement n'est pas terminé. Il me semble que ça peut même aller jusque probablement début novembre. Donc c'est peut-être une bonne mesure pour la CEI de l'annoncer à l'avance, quitte à ce que cette fois-ci la CEI puisse vraiment respecter sa parole, puisque si au 18 décembre le référendum n'a pas lieu, nous risquons de connaître probablement le genre de pression politique qu'on a connu au 30 juin, puisque la population acceptera très difficilement que l'année s'achève sans qu'il y ait eu vraiment quelque chose de palpable dans ce processus électoral.
Eric Kadjamba, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Maria à Bukavu. La CEI a reporté pour le 18 décembre la date de scrutin référendaire. Pensez-vous que cela peut avoir une incidence sur le calendrier global détaillé tel que donné le mois de mai dernier au Parlement?
Oui, sûrement que ce report pourrait avoir une incidence parce que cela va sûrement jouer sur d'autres activités de la CEI. Mais comme l'a dit Félix, on peut bien le comprendre parce que il y a eu des sous-évaluations justement de l'opération d'application d'enrôlement, vu l'étendue, la complexité même du paysage politique congolais, mais aussi les contextes qui est assez mouvant et que, bon, il ne pouvait pas en être autrement, donc on était obligé de reporter les opérations d'inscription d'enrôlement. Mais il faudra que la CEI se force pour justement tirer des leçons et très rapidement de ce qui n'a pas marché et surtout de communiquer. Et comme l'a dit Félix, c'est déjà bien qu'ils communiquent, qu'ils essaient d'expliquer les difficultés qu'ils ont eues. Mais de l'autre côté, il y a toute cette lourdeur administrative qu'on remarque dans les décaissements de fonds et qui fait que ça fait problème. Mais je pense que la CEI devrait à chaque fois s'arrêter et essayer de faire une évaluation partielle et au besoin corriger les tirs pour rattraper un peu le mois qu'on aura perdu.
Mais si c'est vrai que les raisons avancées par la CEI, vous convenez avec Félix Kabuzi, que ce sont des raisons qui tiennent, mais est-ce qu'on est permis maintenant de toujours aller de report en report? Si on sait que mais le calendrier en soi déjà
était. Oui, on est permis d'aller de toujours de report en report, mais j'ai dit ici que le contexte congolais, et je pense que là, la CEI a sous-évalué, on a vu des opérations d'accélération d'enrôlement, comment elles sont en train de se passer. Bon, c'est vrai que dans l'ensemble, ça se passe bien, mais il y a eu énormément de difficultés liées, disons, à l'organisation et d'autres liées à la logistique. Et bon, il faut faire avec, on ne peut pas changer le contexte, il est celui-là, mais le problème c'est de tirer des leçons, parce que si, disons, à les prochaines activités de la CEI, on ne tire pas de leçons des problèmes qu'on a eus, ça ne sera pas une très bonne chose. Et là, on l'a remarqué justement depuis le début des opérations d'enrôlement. Les dernières provinces connaissent le même problème que Kinshasa, ce n'est pas normal. On aurait dû corriger certaines choses et c'est comme si on ne tient pas compte justement de toutes les remarques qu'on a enregistrées tout le long de l'opération.
Félix Benoît Cambéré, vous êtes journaliste à la revue Renaître, c'est une revue catholique. La CEI a reporté le scrutin référendaire pour le 18 décembre prochain. Pensez-vous qu'il pourrait avoir une incidence sur le respect du calendrier global de l'opération électorale?
Bien, Franklin, avant d'y arriver, je voudrais ajouter à ce que Félix et Eric ont dit en ce qui concerne les opérations antérieures et les leçons qu'il faut en tirer. Je pense qu'il faille aussi ne pas oublier une chose. Les opérations d'identification et d'enrôlement ont démarré dans la précipitation. Le 20 juin, le 15 septembre, le 15 juin plutôt, le 20 juin quand ça a commencé, c'était sous la pression du 30 juin. Alors dans cette précipitation, ce qui arrive, les ratés qui arrivent, c'est tout à fait normal. Il ne faudrait pas non plus qu'on oublie qu'on a passé deux ans à presque ne rien faire. C'est vrai, ce n'était pas la faute de la CEI, il attendait de l'argent, il attendait non seulement de l'argent, mais il y avait les lois qui n'étaient pas là, mais seulement, maintenant, c'est la rançon de cette précipitation.
Donc pour vous, le report n'est que la conséquence logique.
C'est tout à fait normal.
Mais effectivement, si c'est normal ce report, pensez-vous que ça peut avoir une incidence sur le respect de prochain de calendrier tel que déposé, connu et établi au mois de mai dernier?
Félix l'a dit, c'était un calendrier prévisionnel, c'est-à-dire susceptible de connaître des modifications à gauche et à droite. Et ce qui va arriver, je donne ma main à couper, on aura encore d'autres problèmes. C'est vrai, l'opération d'identification et d'enrôlement, c'est l'opération la plus lourde et la plus compliquée. Quand on aura passé ce cap, je crois que le reste pourra suivre et j'espère vraiment, comme l'a dit Eric, que la CEI tirera les leçons des ratés qu'il y a eu partout, à Kinshasa, à l'aire numéro 1, à l'aire numéro 2 et à l'aire numéro 4. Il y a des endroits où ce n'est pas encore fini, au Katanga par exemple. Pourtant, c'est l'heure numéro 2. Ce n'est pas normal. Il y a eu des choses qui ont raté. Il y a eu en Ituri où il y a eu l'insécurité. Dès qu'on aura surmonté ces difficultés de l'opération la plus lourde, je crois que le reste suivra. Mais comme on a dit, c'est toujours un calendrier prévisionnel. Et avec les politiques qu'on a, on peut s'attendre à tout. Jusque-là, par exemple, la loi électorale n'est pas encore là.
Effectivement, pour la loi électorale, on y est. Le Parlement avait commencé sa session d'octobre au le 3 octobre dernier. Mais jusque-là, Les députés en sont encore au niveau de discuter sur le mandat des députés qui ont été nommés à la tête des entreprises, s'ils doivent rester, oui, s'ils doivent rester ou non au niveau du Parlement. Ça prend du temps. Certaines formations politiques, certaines composantes politiques menacent d'ailleurs de se soustraire de travaux au niveau de l'Assemblée nationale. N'y a-t-il pas là des raisons d'être inquiet,
Oui,
Félix Kabuzi?
effectivement, on doit être inquiet puisque si à 2 mois de la tenue du référendum, la loi électorale n'est même pas encore discutée d'ailleurs, pas seulement au Parlement, même au gouvernement. Hein, le projet n'est pas encore discuté au gouvernement. Il semble, selon certaines informations, qu'il serait en train d'être discuté pour le moment dans la Commission politique, défense et sécurité. C'est un projet qui doit recueillir, si vous voulez, le consensus de toutes les composantes. Donc, il y a certainement des négociations ou des discussions qui doivent se faire entre les différentes composantes pour qu'ils se mettent d'accord, probablement d'abord au niveau du gouvernement, avant que le projet ne soit déposé au Parlement. Et au Parlement, il faudrait effectivement s'attendre à ce que des députés engagent, comme d'habitude, hein, des débats houleux autour de, surtout de système électoral qui doit être choisi. Donc, je me dis vraiment si à 2 mois, ce projet-là n'est pas encore discuté au niveau du Parlement, effectivement, il y a lieu de craindre, il y a lieu de craindre que la proposition de Maluma le connaisse encore un autre report. Bon, l'espoir, la lueur d'espoir, c'est que la communauté internationale est en train vraiment de tirer à boulets rouges sur le gouvernement. Il y a même, je crois il y a une semaine, le Conseil de sécurité, plutôt le CIAT, hein, a fait une mise au point, vraiment en tout cas, a publié une déclaration pour demander au gouvernement d'étudier rapidement ce projet.
C'était le communiqué qui est sorti même hier.
Hier, voilà. Donc j'espère que le gouvernement va se montrer sensible, puisque si effectivement ce débat-là n'a pas lieu à temps, là c'est sûr que tout va être reporté.
Ce point d'inquiétude, en tout cas, Abbé Apollinaire Malumalu, président de la Commission électorale indépendante, partage avec vous, partage cette analyse. Pour lui, si cette loi n'est pas étudiée, n'est pas élaborée avant même l'opération référendaire, on court vraiment le risque de connaître un vrai retard dans le respect de calendrier. On écoute Abbé Apollinaire Malumalu et on va continuer dans notre analyse.
Le retard des élections n'est pas lié à ce report. Le retard des élections, s'il y en aura, ça serait lié au retard pris dans l'élaboration de la loi électorale. Pour le moment, nous pouvons encore maîtriser le calendrier si la loi électorale est élaborée avant le référendum et qu'après le référendum, ça soit uniquement son adoption finale. Mais si on veut commencer à élaborer la loi électorale après le référendum, là, nous allons vraiment à la catastrophe. J'ai déjà alerté l'opinion publique nationale et internationale à ce sujet.
Mais pour...
Donc, le retard n'est pas lié à ce mois-là, c'est plus l'élaboration de la loi électorale. Donc, si nous, on adopte la loi électorale rapidement après le référendum, il n'y a pas de problème de calendrier.
Je le disais tout à l'heure, Kaber Apollinaire Malumalu reconnaît et partage l'inquiétude que si la loi électorale n'est pas élaborée avant l'opération référendaire, on court vraiment le risque de non-respect de calendrier et donc le risque que les élections même ne soient pas organisées d'ici le 30 juin prochain, comme prévu et entendu par tout le monde. Eric Kadjamba, je rappelle que vous interveniez dans cette tribune de presse depuis Goma, mais vous êtes journaliste de la radio Maria de Bukavu. Eric, pensez-vous qu'aujourd'hui, vous partagez cette inquiétude qu'aujourd'hui, si on traîne dans l'élaboration de la loi électorale, on court vraiment le risque que même les élections ne soient pas organisées d'ici le 30 juin.
Oui, je pense effectivement qu'on court les risques et j'ai peur justement parce qu'il s'agit ici, disons, du partage, encore une fois, des responsabilités qui se fait au niveau du Parlement, parce qu'on discute si les mandataires doivent rester ou ne doivent pas rester. Et nous savons, quand il s'agit d'un débat comme celui-là, c'est que ça nous a toujours coûté en termes de temps. Et plusieurs fois, on a perdu de temps quand il s'agit justement des intérêts des uns et des autres. Et je pense que les parlementaires devraient justement essayer de se dépasser et de nous épargner vraiment de la perte du temps et en essayant de trancher le plus vite possible si oui ou non les mandataires vont rester. Mais nous savons que cette question elle est très sensible par rapport aux intérêts. Mais de l'autre côté, je pense que les 2 mois sont insuffisants, mais il faudrait déjà que, au niveau de la population même, soit par la société civile, on commence déjà à réfléchir, si jamais on a cette proposition de loi électorale, sur des éventuels amendements qui peuvent aider à gagner le temps. Si jamais il y a des organisations qui peuvent faire endosser une autre proposition, ça serait une très bonne chose, ça peut nous aider à avancer. Mais sinon, la crainte reste, et je pense que M. Lavé Malou a des raisons de craindre.
Benoît Combéré, vous avez entendu en tout cas jusque-là le point de vue de deux journalistes, de deux confrères que vous ont précédé, Eric Kadjamba et Félix Kabuzi. Est-ce que ces inquiétudes sont légitimes?
Oui, je pense. Mais je voudrais quand même apporter d'abord une petite précision. La question des parlementaires mandataires a finalement trouvé une solution, parce qu'on a donné 48 heures aux concernés, et les 48 heures expirent aujourd'hui.
Effectivement, mais là, le RCD menace de se soustraire
non,
au cas où
le RCD a déjà publié son communiqué pour l'intérêt de la nation et l'intérêt de l'avancement. Le RCD, hier, s'est réuni et a publié son communiqué ce matin, hier soir déjà, pour dire qu'ils ont accepté que ceux des mandataires qui sont au Parlement puissent choisir. La preuve, Monsieur Moïse Nyarugabo, que Maître Moïse Nyarugabo, que tout le monde connaît, c'est le président du groupe parlementaire du RCD au Parlement, a choisi. Lui, il a démissionné de son poste de président du conseil d'administration de la SONAS pour ne rester que député. Monsieur Ladi Louya, qui était d'ailleurs l'éditeur du palmarès, qui était le porte-étendard des frondeurs, des députés mandataires, lui aussi a choisi, cette fois-là, lui a choisi de rester président du conseil d'administration de Cohydro et il a laissé son poste de député vacant. C'est que les choses sont en train de s'arranger de ce côté-là. Mais la crainte, ce n'est pas... Et d'ailleurs, si le Parlement, maintenant... On a l'impression qu'il perd son temps à s'occuper de ce problème des parlementaires mandataires. C'est parce que tout simplement, le Parlement n'a rien sur la table de travail. Le gouvernement, jusqu'à présent, n'a même pas encore déposé le projet de budget. Et on sait que la session d'octobre, c'est une session budgétaire. Le projet de loi référendaire, ce sera comme avant. Parce que tout le temps où le gouvernement est là, il n'a jamais déposé un projet de loi à temps. Cela a retardé les opérations et même que des fois le Parlement est obligé de se saisir du dossier parce que tellement le projet qui, selon la loi, doit venir du gouvernement, tel à venir, le Parlement se saisit d'office des dossiers comme ça. La loi électorale, par exemple. Il y a des opinions au Parlement qui disent qu'on ne peut pas élaborer la loi électorale tant que le référendum n'a pas encore lieu.
Mais ici, il est clair justement entre la position de la CEI et la position partagée par plusieurs personnes, dont des ambassadeurs, ils estiment que cette loi, à défaut d'être adoptée avant le scrutin référendaire, doit être au moins élaborée avant le scrutin.
Elle traîne encore au niveau du gouvernement.
Ouais.
Elle traîne encore au niveau du gouvernement avec...
Est-ce que ça traîne parce qu'on part du principe qu'il faudrait attendre le référendum ou ça traîne parce que le gouvernement ne veut pas ou le gouvernement a une déficience de volonté?
Ne veut pas, déficience peut-être, ne veut pas, on ne peut pas l'affirmer, mais personnellement je constate que et la loi sur les lois organiques et toutes les lois ont traîné au gouvernement. C'est à se poser des questions si le gouvernement a une volonté politique dans ce sens, malgré les pressions. On a vu, par exemple, pour le projet de constitution, il a fallu, malheureusement, encore une fois, que la communauté internationale, que le CIAT tape du poing sur la table pour qu'on y aille. C'est malheureux.
Félix Kabuzi, pensez-vous qu'il faudra à chaque fois que le CIAT dise quelque chose pour que ça avance?
Bon, et ce serait vraiment dommage si les institutions de notre pays doivent attendre qu'on leur rappelle leurs obligations. Moi, je crois qu'ici, il y a un problème fondamental, c'est le problème du respect du calendrier. La transition était convenue pour 2 ans, avec 12 mois de prolongation. Nous venons, nous sommes en train de terminer le quatrième mois de la prolongation. Bon, il nous reste probablement 6 ou 7 mois. Si dans 6 ou 7 mois ou 8 mois, le gouvernement n'arrive pas ou la CEI n'arrive pas à organiser les élections, mais là, nous allons encore dans une équation beaucoup plus difficile. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement prenne effectivement la mesure du problème que nous allons affronter après le 30 juin, ou en tout cas avant le 30 juin, ou même, je dirais, vers le mois d'avril, mai, si on se rendait compte que on n'a pas, par exemple, organisé le référendum à ce moment-là, ou même les étapes des élections locales n'ont pas lieu. C'est sûr que le gouvernement n'aura pas la tâche facile. Ça, c'est de un. De deux, je crois qu'il faut dire aussi, par rapport à l'organisation des élections, qu'il y a des modèles qu'il faut suivre. Il ne faudrait pas que nous ayons des élections quand même qui risquent d'amener le pays à d'autres problèmes. C'est pourquoi, tout en félicitant la CEI avec les propositions de date et de calendrier qu'elle propose, il faudrait que le gouvernement fasse le mieux possible pour aider la CEI à ce que les élections qui vont être organisées se fassent, à mon avis, selon le modèle, par exemple, burundais. On a organisé des élections au Burundi, les choses se sont passées.
Mais tout ça dépend de la loi électorale. C'est la loi électorale qui va dire s'il faudrait ou non, si ça serait un scrutin direct ou indirect. Par exemple, tout ça, on attend de la loi électorale qui, jusque-là, n'a pas encore été élaborée. Ne serait-ce que le projet.
Oui, mais là, c'est le choix des hommes politiques congolais. Je crois qu'on l'a dit la fois passée, les experts ont formulé un certain nombre de propositions. Il appartient aux députés de pouvoir les endosser. Bon, si on endosse un système décrié par deux ou trois groupes politiques importants, effectivement, ça peut créer des problèmes. Donc, il faudrait que les hommes politiques congolais comprennent que c'est l'avenir du pays qui se joue maintenant.
Suspension de la grève des enseignants. Les enseignants viennent de suspendre leur grève. Le cours devra alors reprendre ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette décision des enseignants à reprendre le cours? Eric Kadjemba, je rappelle que vous êtes journaliste de la radio Maria de Bukavu et vous intervenez dans cette émission depuis Goma, où vous vous trouvez présentement. Eric, quelle explication pouvez-vous donner à la position des enseignants? Qu'est-ce qui a influencé cette décision?
Bon, on ne peut pas dire tout de suite qu'est-ce qui a influencé, mais moi je pense que les enseignants, disons, avaient été... Bon, il y a d'abord une première chose, c'est que au niveau de tous les partenaires, au niveau de l'enseignement, on a senti qu'il y a un manque de cohérence, parce que déjà, il y avait une très grande contradiction dès le départ. Mais aussi, il y a une autre explication qui, à mon sens, est importante, c'est que nous devons encore construire notre système de contre-pouvoir, parce que la société civile qui, au fait, doit faire la pression, travaille de manière dispersée et des fois, elle n'arrive pas à faire une action qui porte. Et je crois que ça ne m'étonne pas qu'ils puissent lâcher, parce que effectivement, la société civile est tombée dans le piège de se politiser. Ça, c'est une première chose.
Mais est-ce que vous pensez que dans les cas des enseignants, plus précisément, est-ce que les enseignants ont été politisés ou c'est une décision prise à toute maturité et une décision qui, sans doute, a été influencée par certaines considérations?
Oui, en toute maturité, je ne sais pas dire, mais je me dis que ce n'est pas impossible que ce soit politisé, parce que là, on a entendu des délégués de syndicats, on n'a pas entendu cela pour lesquels ils s'indiquent, on peut se poser des questions, parce que c'est souvent ça le problème. Des fois, c'est très facile à être récupéré, mais je ne dis pas qu'ils ont été récupérés, parce que je n'ai pas les éléments pouvant le prouver. Mais seulement ce que je voulais noter, c'est que l'action de pression au niveau de la République démocratique du Congo, on n'a pas beaucoup de moyens de pression comme société civile, parce que on a choisi la voie de la structuration de la société civile au lieu de renforcer les organisations à la base. Et là, c'est à Kinshasa, mais je vous apprends par exemple qu'à l'intérieur, par exemple, ici à Goma, les gens vont à l'école. Et je me demande...
Si en fait, ils ont dit pour la semaine prochaine, hein, c'est pour le 17, le lundi 17 prochain, donc il faudrait peut-être attendre et voir.
Oui, ben, tout à fait, parce que ça fait la troisième fois qu'on dit qu'il rentre, etc. Mais j'insiste sur l'organisation à la base, par rapport aux organisations de la société civile qui doivent être très fortes, parce que autrement, on va laisser les politiques nous amener. Et pour moi, j'insiste beaucoup sur le fait que la société civile devrait se réorganiser autrement et essayer de faire une certaine refondation de mes façons de faire et d'agir. Et je crois que ça mérite une grande réflexion, évaluer quelque peu l'action de la société civile et voir s'il n'y a pas d'autres stratégies qu'on peut mettre en place et qui peuvent encore davantage faire un contre-pouvoir populaire dans les bons sens, qui peuvent nous aider justement des fois à faire avancer les choses quand les politiciens bloquent.
Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes journaliste à la revue Renaître, une revue catholique. Les enseignants vont reprendre, ils ont pris la décision de reprendre les cours. Mais avant d'avoir votre analyse, écoutons d'abord le représentant, le président du syndicat des enseignants de l'école catholique. Et puis on va revenir avec l'analyse ici au studio.
Les enseignants ont décidé de pouvoir observer une trêve de 3 mois. Et vont reprendre les enseignements effectivement le lundi 17 octobre et c'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc les enfants doivent déjà se préparer pour reprendre réellement les cours parce que le lundi, les professeurs seront là et vont dispenser les enseignements dans la sérénité. Et c'est sur toute l'étendue du territoire. Nous entrons déjà en contact avec tous nos délégués des provinces pour pouvoir reprendre les enseignements à partir de lundi 17 octobre.
Et ce délai de grâce va jusqu'à quelle date?
Eh bien, nous allons du 17 octobre, donc le lundi, la date officielle de la reprise des enseignements par les enseignants jusqu'au 31 décembre. Et c'est clair, le gouvernement doit saisir cette balle au bon, sinon tout pourra encore déraper.
Voilà, c'est la position du syndicat. Les deux sont tous d'accord pour reprendre le cours lundi prochain, le 17. Donc, Benoît Cambéré, maintenant, vos analyses. Qu'est-ce qui a influencé en réalité cette décision des enseignants?
Bon, il y a eu d'abord, à mon sens, hein, le manque de cohésion. Encore une fois, Eric s'est abstenu de le dire, mais moi je pense que je peux le dire, c'est les politiques ont influé sur les partenaires de l'éducation. Il y a eu les réseaux, il y a eu les parents, il y a eu la politique de diviser pour mieux y aller, parce que Jean Bosco Puna vient de parler de reprendre réellement les cours le lundi. On a vu à Kinshasa cette semaine une reprise timide des cours dans certaines grandes écoles de Kinshasa. C'est sous la pression des parents, de certains parents, sous la pression de certains réseaux, on a vu que les cours ont commencé timidement, bien que dans certaines classes, les enseignants étaient là sans donner cours. C'est pour ça que Jean Bosco Puna vient de parler de reprendre réellement les cours. Donc la reprise, disons, réelle et effective de cours aura lieu ce lundi.
Et donc pour vous, vous justifiez ça par le fait qu'ils ont cédé suite à la pression de toutes parts.
Tout à fait, des pressions de toutes parts. Et ça, le politique a joué pour les diviser. Si les parents...
Vous croyez vraiment qu'ils étaient divisés? À quel niveau?
Par exemple, pour ne prendre que la semaine avant celle-ci. La semaine d'avant, il y a le président niveau pour la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé la reprise des cours et n'a pas eu lieu. Après, c'est le président de l'association des parents, notamment des parents catholiques, qui a lancé un mot d'ordre de reprise des cours et n'a pas eu lieu. Après, il y a eu le réseau des catholiques qui a lancé le mot d'ordre, ce qui a fait que certes, des élèves ont commencé à venir lundi timidement. C'est là
finalement, une semaine, on retrouve tous les deux syndicats des écoles publiques et des écoles catholiques qui se conviennent pour commencer.
Tout à fait. Est-ce que vraiment maintenant, les deux syndicats, les vrais, les syndicats forts, les syndicats qui ont lancé ce mouvement de grève, est-ce qu'ils avaient encore le choix? Après toutes ces pressions, après toute cette démobilisation du côté des parents, du côté des réseaux d'enseignement, on a vu les protestants déclarer, les kimanguistes déclarer, ainsi de suite. Sous cette pression, ils n'avaient plus le choix. Bon, bien sûr, ils ont été reçus au Parlement par le président de l'Assemblée nationale. Bien sûr, ils ont eu les promesses du chef de l'État. Et maintenant, là, ils ont dit qu'ils observent une trêve. Parce que la partie n'est pas finie. On voudrait voir la bonne foi du gouvernement, on voudrait voir la bonne foi de tous ceux qui ont promis, voir si d'ici au 31 décembre, ils vont réaliser leurs promesses, parce que malheureusement, le gouvernement a trop promis depuis longtemps et ne réalise souvent pas, malheureusement.
Et donc, on court toujours le risque de revenir à la grève.
Tout à fait, tout à fait.
Félix Kabouzi, je rappelle que vous êtes directeur du journal La Référence Plus. Les enseignants ont repris le cours pour, en tout cas, Éric Kadjemba et Benoît Cambéré, il y a eu effectivement une influence politicienne, une influence de toutes parts sur les membres des syndicats. Pensez-vous vraiment que c'est cette pression-là, finalement, qui a fait que les syndicats puissent céder, demander, commencer le cours avant qu'ils n'aient leur gain de cause?
Oui, je partage cette analyse. Je voudrais ajouter à ce que les amis ont dit que l'une de ces raisons, à mon avis, c'est d'abord le fait que personne n'avait vraiment intérêt à ce que nous connaissions une année blanche. En tout cas, ni les parents, ni le gouvernement, ni non plus les enseignants. Donc, une année blanche était vraiment synonyme de catastrophe. Je pense que les enseignants l'ont compris et ils ont bien voulu, en tout cas, mettre momentanément, disons, un terme à leur, enfin une trêve, hein, d'après ce qu'ils ont dit, une trêve à leur mouvement. La deuxième raison qui me paraît quand même assez fondamentale, c'est que les enseignants se sont rendus compte qu'en fait, le gouvernement était avec nous et que à la prochaine grève, il pouvait être en mesure d'obtenir mieux.
Tu peux me chercher le nom de responsable de l'organe, s'il te plaît.
Donc, ils se sont rendus compte que le gouvernement était à genoux après ce premier mouvement de grève. Et ils se disent que, en tout cas, à une prochaine grève, le gouvernement était capable de répondre à leurs exigences. Puisque, rendez-vous compte que pour ce premier mouvement, le gouvernement est passé de 10 000 francs, hein, 10 000 francs, c'est-à-dire 20 dollars qu'on payait à l'huissier, à plus ou moins 50-55 dollars. Donc, je crois que les enseignants se sont dit que il était possible que, avec le prochain budget, que le gouvernement se rende compte que il n'avait pas d'autre choix que de répondre à leurs exigences. Et ça, c'est de deux. De trois, il me semble que les enseignants ont compris aussi que leur mouvement avait un appui très fort, non seulement du côté des parents, mais surtout de l'Église catholique. Vous savez que dernièrement, le président de la conférence épiscopale, Mgr Monsengo, a publié une déclaration qui montre l'engagement de l'Église catholique à soutenir, en tout cas la réforme dans le secteur de l'enseignement. Il a dit qu'il n'était pas normal que le secteur de l'enseignement soit le parent pauvre du budget de l'État congolais. Donc, tout compte fait, on peut se dire que dans le budget 2006, et c'était d'ailleurs ça la promesse du gouvernement, il va certainement être pris en compte une certaine réforme, en tout cas dans la répartition du budget.
Mais justement, le problème, c'est est-ce que le gouvernement est crédible? Est-ce que les enseignants croient que le gouvernement va réaliser toutes ces promesses? Parce que promettre, c'est une chose, et réaliser la promesse, on est une autre.
Non, je pense que le gouvernement n'a pas de choix, pour deux raisons. Premièrement, les enseignants, comme ils ont dit, ils n'ont fait qu'une trêve. Et la trêve est de 2 mois et demi, donc du 17 au 31 décembre. Ça veut dire que si au début de décembre, puis on espère qu'au 31 décembre, on aura adopté le budget, donc les enseignants vont voir ce qui est effectivement la part de l'enveloppe qui leur est effectivement consacrée. C'est au vu de cette part-là qu'ils peuvent se décider soit de renouveler la grève ou de continuer à donner les enseignements. Ça, c'est de deux. Il y a aussi quand même, cette fois-ci, une bonne prise de conscience de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire. Vous savez que le Parlement, comme Benoît l'a dit, a initié une interpellation du gouvernement. Il y a le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire qui va devoir se justifier dans une même. Et je crois que cette grève a montré à quel point l'Assemblée nationale était irresponsable aussi, ou si vous voulez, était responsable de cette situation, puisque l'accord de Mboudi était signé en 2004, le Parlement n'a pas pris soin de traduire cet accord-là dans le budget 2005. Donc je crois qu'avec ce qui est arrivé, les parlementaires ont compris que, puisque eux, ils doivent solliciter le suffrage dans 2, 3, 4 mois, ils ont compris qu'ils doivent tout faire pour améliorer le sort du fonctionnaire congolais.
Oumba Lungange, président provincial ad intérim Juvenal Kitungwa, chargé de la jeunesse de l'UNAFEC, ne devons plus passer sur les chaînes nationales pour une durée d'au moins 3 mois. L'Union nationale de la presse du Congo a pris cette mesure hier jeudi suite aux propos incitant à la haine que ces deux représentants de l'UNAFEC ont tenus sur la chaîne Inter Viens et Voir. Une enquête est ouverte pour établir les responsabilités de cette chaîne. Éric Kadjemba, vous intervenez dans ce dialogue en congolais depuis Goma et vous êtes journaliste de Radio Maria à Bukavu. Comment avez-vous accueilli justement le passage à l'antenne de ces propos haineux de Lubumbashi tenus par le responsable de l'UNAFEC?
Oui, c'est justement avec beaucoup de peine que on a entendu ce message, parce que nous savons que nous sommes dans un moment très décisif de l'histoire de la République du Congo, et les médias ont un rôle très important à jouer, et ce n'est pas vraiment le moment. On sait que les médias sont capables de construire la paix, mais ils peuvent aussi les détruire si quand c'est disons, quand ce n'est pas bien fait. Et nous pensons que au Shabat, c'est pas la première fois. En 93, on se rappelle un peu de ce qui s'est passé. Les médias ont été utilisés justement pour de la même fin. Et je pense que nous devrions, nous, les professionnels de médias, faire attention justement par rapport à cette façon de faire. Mais les acteurs politiques aussi devraient comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on pourra construire un état de droit. Et nous pensons que ça reste très inquiétant. Mais nous félicitons quand même que l'UNPC et le MEC aient pris leur responsabilité en essayant de sanctionner. Bon, on ne sait pas la mesure de la peine, si elle est proportionnelle un peu à la faute commise, mais j'espère qu'ils ont des textes pour ça et l'ont fait en toute responsabilité.
Mais si l'Union nationale de la presse et le MEC, l'Observatoire de médias congolais, ont pris cette mesure, mais qu'en est-il des politiques congolais? Parce que ce sont des propos très dangereux, des propos qui peuvent créer des dérapages considérables, mais du côté des politiques, il n'y a aucune mesure. Est-ce que ce n'est pas inquiétant?
Oui, c'est tout à fait inquiétant, parce que nous le disons ici, si nous voulons construire un état de droit, et on sait la pente sur laquelle nous sommes, je pense qu'il faudrait justement essayer de voir que faire un peu de ces acteurs. Mais bon, les médias l'ont déjà fait. Et je pense qu'il appartient soit au ministre de l'Intérieur, soit, je ne sais pas, à d'autres partenaires politiques de voir un peu ce qu'ils doivent faire avec ces personnes pour que ça ne revienne pas. Et surtout que nous sommes en train d'aller vers les élections, et la tolérance, je crois, c'est l'une des vertus sur lesquelles nous devrons nous appuyer et si nous voulons construire. Parce qu'il y a eu d'autres tentatives. On a entendu des cas où on a jeté des pierres à l'un ou l'autre politicien. Ça s'est passé, on en a parlé au Sud Kivu. Et on a eu des cas au Sud Kivu, par exemple, où on a brûlé des bureaux de parti, on a jeté des pierres au bureau de parti. Et je crois que ce sont des attitudes qui sont tout à fait dangereuses et qu'il faudra monitorer et essayer de voir comment le plus possible les sanctionner pour qu'on fasse ce passage en douceur, celui de la transition vers la République à venir.
Benoît Cambéré, vous êtes journaliste de la revue Au Renaître, c'est une revue catholique. Vous avez entendu sans doute aussi cette information sur le propos de la haine tenue par les deux responsables de l'UNAFEC, l'Union des nationalistes et fédéralistes du Congo, de Kyungwa Kumanta, et de deux ministres de la justice, Kissim Bangoy. Comment vous avez interprété, analysé ça, et deuxièmement, comment vous avez vu la décision de l'UNAFEC et de l'OMEC et la position du gouvernement congolais?
Je vais d'abord partir de la décision de l'UNPC. Cela s'est fait avec célérité et à la mesure de l'UNPC et de l'OMEC. L'UNPC et l'OMEC ne peuvent faire que ça, malheureusement. D'ailleurs, je suis surpris, je ne dirais pas agréablement ou désagréablement, que cette fois-ci, la HAM s'est tue. Pourtant, ce serait une occasion pour que la HAM, la Haute Autorité des médias, qui depuis un certain temps agit à tort et à travers, à temps et à contre-temps, cette fois-ci, même à contre-temps, ce serait la bienvenue. Mais curieusement, cette fois-ci, elle s'est tue. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Est-ce que la Haute Autorité des médias a compris que cette fois-là, il faut qu'elle fasse attention? L'avenir nous le dira. Pour maintenant aller vers le politique, c'est là ma crainte. L'impunité a trop duré dans ce pays. Ce n'est pas la première fois qu'on entend des propos haineux dans ce pays. Et malheureusement, ce sont toujours les mêmes. La chasse aux Kassaïens en 1993, nous savons qui a été à la base. Et ces gens-là, on les appelle honorables. C'est des gens qui devaient être en prison. Mais comme dans ce pays, tout le monde. Il y a l'impunité, il y a... Non, il y a des gens qu'on appelle excellence, on a des gens qu'on appelle honorables, qui n'ont aucune honorabilité. Des gens qui sont au Parlement, ce n'est pas leur place. Aujourd'hui, avec ce que ces gens-là ont fait au Kassai, plutôt au Katanga, sur le Kassaïen, leur place, ce n'est pas dans un Parlement. Leur place, c'est quelque part en prison, s'il vous plaît. Avec tout le mal qu'ils ont fait. Mais on les a laissés, comme l'impunité dans ce pays...
Est... Et comment vous justifiez ça? Comment vous justifiez justement cette position?
Mais c'est le laxisme de nos politiciens. On a déjà vu ça. Nos politiciens ici, il suffit des arrangements, des combines pour se dire homme politique. Il suffit des arrangements, des combines pour se dire honorable et tout, comme malheureusement ou heureusement ils ne sont pas élus. Ils sont là-bas impunis. Comme ils n'ont pas été punis pour grand-chose, ils peuvent continuer allègrement à faire et à narguer les gens. Même pas, on ne demande même pas pardon, on ne s'amende même pas, on peut continuer. Non, jusqu'où on va aller? C'est là que le politique doit agir. On voit ici des politiques qui répriment on ne sait quoi pour n'importe quoi. Là, c'est l'occasion. Il y a des gens qui ont leur place en prison et pas dans le Parlement. C'est plus si un Parlement non élu.
Félix Kabizi, vous êtes directeur de journal La Référence Plus. Vous avez sans doute aussi appris des nouvelles sur les propos haineux tenus par le responsable de l'UNAFEC. Vous avez entendu la position et la décision de l'UNAFEC et de l'EMEC sur ces deux personnalités. Une enquête est mise en cours pour situer et déterminer la responsabilité de la chaîne Intervient et Voix. Comment vous interprétez d'une part cette décision de l'Union nationale de la presse congolaise et de l'EMEC et d'autre part la position du gouvernement congolais?
Bon, je salue la décision de l'UNPC et de l'OMEC, puisqu'on ne peut vraiment pas tolérer que les médias puissent véhiculer ce genre de discours. Mais ce qui est regrettable, c'est que cette affaire a pris aujourd'hui de l'ampleur parce que c'est la MONUC qui, au début, hein, a décidé de résilier, je crois que c'est Radio Okapi, hein, qui a décidé de résilier le contrat qui le liait avec ce média.
C'est la MONUC.
C'est la MONUC.
Le service de l'information.
Voilà, le service de la collaboration. Oui, de la MONUC. Mais je me dis que cette bande a été diffusée intégralement à Lubumbashi. Et je pense qu'entre la décision des services de l'information de la MONUC et la diffusion de cette bande, il s'est probablement passé peut-être un ou deux ou trois jours. Mais quel a été le rôle du gouverneur du Katanga lorsqu'il a auditionné, il a suivi cette bande? Quel a été le rôle des services de sécurité, de la police ou même des cours et tribunaux? Quelqu'un qui demande dans une bande diffusée à la télévision qui traite des gens hein, de tous les noms, chauve-souris, serpents, et qui en appelle au meurtre, vraiment. Et ça, c'est diffusé à la radio, à la télévision. L'autorité ne fait absolument rien. Ça, c'est quand même grave. C'est très grave. Donc, je crois que la première responsabilité commence déjà à partir de Lubumbashi, de toutes les autorités dans cette ville. Et vous savez que le gouverneur du Katanga n'épargne pas la presse pour des choses inutiles. Il a menacé à deux ou trois reprises de fermer des journaux. Je crois qu'il en avait même fermé. Alors, ça, c'est quand même extrêmement grave qu'on laisse des leaders politiques proférer ce genre de discours sans une quelconque réaction de la part de l'autorité locale.
Est-ce que cela ne tient-il pas par, d'abord, la force que représente l'UNAFEC dans la région et aussi son partenariat avec ses relations avec le parti au pouvoir?
Mais ça c'est clair. Bon, je crois que je ne connais pas la force politique de l'UNAFEC. Tout ce que je sais c'est qu'elle est héritière de l'UFERI, en tout cas de par hein, le nombre de ses militants et probablement de ses fondateurs. Or l'UFERI, vous savez ce qu'elle représente comme souvenir dans ce pays. En tout cas l'UFERI, aux années 92-93, comme Benoît l'a dit, était synonyme de d'épuration ethnique, de toutes sortes de calvaires que des Congolais non originaires du Katanga ont connu. Et donc, on ne peut pas du tout laisser passer un tel discours, surtout de la part des responsables de ce parti politique. Alors, au niveau du gouvernement, c'est aussi étonnant. J'ai même suivi l'intervention, je crois, d'un membre du gouvernement qui tentait de comprendre cette déclaration-là. Mais ça, c'est quand même irresponsable. C'est vraiment irresponsable. Nous allons vers les élections et si on laisse de tels discours se développer, c'est que nous allons connaître des élections totalement sanglantes. Et si le gouvernement lui-même, qui n'a absolument rien fait pour la réconciliation, hein, en tout cas pour favoriser la réconciliation dans certaines zones, comme l'Ituri, le Sud Kivu, le Nord Kivu et même dans le Katanga, laisse faire. Je suis sûr que dans ces parties-là, nous connaîtrons des élections tout à fait troubles.
C'est la fin de cette tribune de presse. Merci beaucoup à Benoît Combéré. Benoît est journaliste à la Revue Renaître. Eric Kadjemba, journaliste à la radio Maria de Bukavu. Et Félix Kavuzi, directeur du journal La Référence Plus. Nous allons nous retrouver lundi prochain pour un autre numéro de Dialogue en Congolais et vendredi pour la tribune de presse qui reviendra sur l'actualité la semaine prochaine. Thank you.